sur Radio PFM, on est avec Paul Masson, formateur d'adultes à la retraite, militant de l'éducation populaire et membre d'ATTAC. On poursuit avec toi, Paul, cette série d'émissions sur le thème des retraites. Alors, lors des précédentes séquences, tu nous as parlé de l'attachement des Français au système actuel des retraites. Tu nous as présenté aussi les différentes tentatives de réforme. Tu nous les as présentées comme une nouvelle forme d'accaparement par le capital de ressources, et ça dans une continuité dans le temps, une réforme néolibérale qui
s'étale sur 35 ans.
Voilà. Alors pourquoi finalement, pourquoi les gens continuent de voter pour des élus qui mènent ce genre de politique? Quelle explication tu donnes à ça?
Effectivement, ça pose question. Alors il y a d'abord faire une différenciation. En 35 ans, on a eu différents types de gouvernements. Et tous n'ont pas, par rapport aux retraites, conduit la même politique. En 83, Pierre Mauroy, ministre de Mitterrand, fait passer le droit à la retraite de 65 à 60 ans. Donc il y a une avancée liée à la gauche. Sous la présidence de Hollande, entre 2012 et 2017, et Hollande était loin d'être un gauchiste, c'est lui qui a cassé le droit du travail, il n'y a pas eu de loi qui recule l'âge de la retraite. Il n'y a pas eu de loi qui augmente le nombre d'années de cotisation. Lorsque la gauche a été au gouvernement, il y a eu une seule loi, c'est une loi sur les fonds partenariaux mis en place par Strauss-Kahn, qui était ministre de Jospin sous Chirac, qui va dans le sens de favoriser la retraite par capitalisation. Il n'y a pas eu d'attaque contre les retraites. Toutes les attaques contre la retraite par répartition, report de l'âge légal ou augmentation des cotisations, on les doit à des politiques de droite. Le premier, c'est Balladur. Ensuite, ça va être Juppé sous Chirac. Ensuite, ça va être Fillon sous Sarko. Et puis après, c'est Macron avec Édouard Philippe. Et puis maintenant, Macron avec Elisabeth Borne qui veut remettre ça au chapitre. Et si on regarde aux dernières présidentielles, concernant les retraites, on avait deux options très différentes. Macron annonce qu'il veut retarder la retraite jusqu'à 65 ans. Et en face, Mélenchon et Roussel disent qu'on veut revenir à une retraite à 60 ans. Donc en fait, d'aller dire c'est exactement les mêmes politiques, non. La démocratie, ça a quand même du bon. L'expérimentation néolibérale, ça s'est fait au Chili. Ils n'ont pas mis 40 ans pour transformer le système. En France, le fonctionnement démocratique fait que les multinationales ne peuvent pas faire exactement ce qu'elles veulent et au rythme où elles veulent. Mais si on veut comprendre comment le capitalisme cherche à s'imposer, on ne peut pas se contenter de penser hexagonal. Il faut comprendre le conditionnement général construit à l'échelle internationale. Ce conditionnement repose sur deux choses. Faire en sorte que le commerce mondial soit fixé et régulé par le marché. Et le marché seul. Les lois du marché doivent être au-dessus des choix politiques des États. Les États ont le droit, dans les contrats internationaux, de faire une politique de santé. Elles ont le droit de faire une politique de transport. Elles ont le droit de mettre en place des services publics. Mais les entreprises et les politiques devront pouvoir être concurrencées par les entreprises privées qui viendront se positionner sur ce marché. Je prends trois exemples. L'État va avoir une politique hospitalière. Et il a le droit d'avoir cette politique hospitalière. Mais l'État, dans sa politique hospitalière, ne peut pas empêcher que des hôpitaux privés viennent s'installer sur le secteur de la santé pour faire du profit. Et cette loi de concurrence par le marché fait que les hôpitaux finissent par être pensés non pas en fonction des besoins de santé, mais en besoin d'équilibre de leurs comptes sur un marché concurrent. C'est une illustration. Les hôpitaux, tout le monde dit que ça ne va pas. Et ça se comprend. Si pendant 40 ans, le seul souci n'est pas la santé publique, mais la rentabilité, on n'a plus de santé publique. Autre secteur, ça va être les transport, avec la SNCF, ou les énergies. On a cassé EDF, GDF, pour faire en sorte que n'importe quel concurrent puisse s'y mettre. Et maintenant, on est en train de casser la SNCF, parce que le service des transports collectifs mis en place en 1945, s'il continue d'exister, les entreprises privées ne peuvent pas venir sur le territoire. Et on a vu comment, progressivement, on est en train de casser la SNCF pour faire en sorte que des entreprises privées puissent venir s'installer sur ce marché. Troisième exemple, et alors là, le scandale des EHPAD le met bien en avant, les collectivités territoriales, parce que là, c'est plus à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes, peuvent mettre en place une politique du quatrième âge. Mais elles ne peuvent pas empêcher que des capitaux privés viennent s'installer pour faire du profit sur les vieux qui continueront d'exister.
Toute cette nouvelle organisation du capitalisme mondial, elle est passée par la fondation d'une superstructure, des traités, la naissance de l'OMC en 1994.
Voilà. C'est-à-dire que la manière dont ils agissent, on laisse aux politiques le soin de faire ce qu'ils veulent dans le cadre d'accords internationaux qui fixe au marché le rôle suprême. Le premier de ces organismes, c'est l'Organisation mondiale du commerce, créée en 1994. C'est les accords de Marrakech, qui consistent à appliquer les lois du marché à toutes les activités. La santé, c'est une activité marchande. Le texte est clair, chaque État, je cite, assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles ont été annoncées dans les accords par l'OMC. L'OMC fixe la règle pour tout le monde. Et concrètement, pour la France, qui négocie à l'OMC? Ce n'est pas chaque État de l'Union européenne qui négocie, c'est l'Union européenne qui négocie pour l'ensemble des États. Et les négociateurs sont des hauts fonctionnaires qui sont chargés de préparer et négocier ces accords. Ces hauts fonctionnaires viennent des mêmes écoles que ceux qui dirigent les grandes multinationales et passent éventuellement de l'un à l'autre. On va avoir des hauts fonctionnaires qui vont devenir directeurs d'une multinationale, des directeurs de multinationales qui vont devenir aux fonctionnaires à Bruxelles.
Les parlementaires, alors?
Les parlementaires n'ont pas leur mot à dire. Il n'y a pas d'élus dans ces négociations. Mieux, les députés européens, pendant ces négociations, ne sont pas tenus au courant de l'état des négociations. C'est argumenter de dire si chacun donne son avis, ça risque de nous faire perdre quelque chose. Mais concrètement, tous ces accords-là se décident entre hauts fonctionnaires, sans intervention des élus. L'OMC fixe un cadre qui fait que vous pouvez même faire n'importe quoi, c'est faisable si vous restez dans ce cadre. Pour ce qui est de l'Union européenne, ces règles ont été opérationnalisées à travers deux traités. C'est le traité de Maastricht en 1992 et le traité de Lisbonne en 2007. Le traité de Lisbonne, c'est la reprise du traité constitutionnel européen qu'ont refusé les Français et les Hollandais. Les élus s'en sont ressaisis et ils l'ont appelé traité de Lisbonne et ils ne l'ont plus fait passer par le suffrage universel. Ces deux traités vont faire en sorte que tous les États de l'Union européenne s'alignent sur les règles internationales qui fixent au marché la conduite des politiques économique des États. Le deuxième conditionnement, ça va être les finances. Pour nous, ça a été la mise en œuvre d'une politique unique confiée à la Banque Centrale Européenne. Suite au traité de Maastricht est décidée la création d'une Banque Centrale Européenne. Cette Banque Centrale Européenne n'a pas de compte à rendre aux États et aux élus. Elle est indépendante. Et quand les États ont besoin de finances, ils s'adressent aux banques privées qui, elles, si elles ont besoin d'argent, s'adressent à la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que les États se sont Ils ont confié aux banquiers la conduite de leur politique monétaire. Ils se privent de l'outil monétaire qui permet de conduire des politiques économiques. Le fait de confier au marché seul les soins fait que les entreprises vont investir en fonction non pas d'un intérêt général quelconque, mais de l'intérêt qui va leur permettre de faire le plus de profit. Pourquoi elles vont investir pour ça? Parce que ça rapporte. L'idée de politique qui pense un intérêt général, elle n'y est plus. Le personnel politique est dépossédé de son pouvoir. Si on élit des députés, c'est pour qu'ils choisissent les priorités. Mais si les seules priorités qu'ils peuvent choisir, c'est dans le cadre de ce que le marché veut bien leur accorder, leur pouvoir économique est assez limité. Leur boulot consiste à gérer les intérêts de ceux qui font le marché. Les multinationales, essentiellement, les gouvernements se trouvent pratiquement à servir à faire des discours. Pas uniquement, puisqu'on a bien vu que de l'un à l'autre, ce n'est pas exactement la même chose. Mais le discours, ils en sont maîtres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on n'attend pas d'un gouvernement des discours. On attend de conduire des politiques.
Pour illustrer un petit peu cette question de la superstructure, tu voulais nous parler d'une campagne menée actuellement par Attac ?
Oui. Actuellement, Attac mène une campagne pour faire en sorte que la France et d'autres États de l'Union européenne sortent des traités de Lisbonne qui permettent aux industriels de poursuivre les États quand ils font des choix écologiques. Illustration. Les Pays-Bas décident, pour des raisons écologiques, la fermeture de centrales au charbon. En Italie, ça va être, ils veulent faire en sorte qu'il y ait interdiction de certains forages pétroliers. En Slovénie, ils veulent faire des restrictions quant à l'utilisation de certaines techniques très néfastes pour l'écologie dans l'exploitation d'énergie. En France et en Espagne, il y a des politiques qui veulent soutenir les énergies renouvelables. Concernant tous ces exemples-là, les multinationales de l'énergie, du pétrole, du charbon, menacent les États de porter plainte contre eux parce qu'ils ont investi. Et si les règles changent, ils auront des intérêts à perdre. Donc, si j'ai des intérêts à appel, je fais appel à l'OMC, à l'organisme des différents, pour faire en sorte que je sois compensé du manque à gagner que je pensais faire dans ces investissements. Il y a des combats comme ça, mais vous n'en entendez pas parler à la radio. Ah, si, sur PFM.
Merci Paul de nous en parler en tout cas, et puis on te retrouve la semaine prochaine pour une autre séquence pour comprendre et débattre. Au sujet des retraites et puis de tout le reste.